Chers amis, hein, merci encore, encore une fois, ce n'est pas toujours le cas, d'être à l'heure. Vous avez quand même hein, regagné un peu de réputation pour les Français. Hein. Bon, donc voilà, on va reprendre. Cet après-midi, d'une certaine manière, on continue prolonger le discours ce matin sur la question de l'Empire, de comparaison, l'Empire romain, le chinois, etc. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Gilles Delannoy. Lui, il est professeur à Sciences Po, grand spécialiste sur le nationalisme. Bon, il y a d'autres domaines. Voilà. Donc, il y a quelques années, Monsieur Delannoy s'intéresse aussi un peu ou plus, je sais pas, à la Chine. Il a certains ouvrages déjà aussi traduits en chinois. Donc, voilà, aujourd'hui, je l'invite pour participer à notre discussion. Justement, c'est pour cette prolongation, cette question existe. Est-ce que ça existe ou pas? C'est le passage de l'empire à nation, tout un tas de questions. Voilà, donc la parole, c'est à vous.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Comme vous l'avez dit, j'ai un intérêt particulier, au-delà de mes études d'historien, de politiste ou de philosophie politique, pour la Chine. Alors certes, ce n'est pas un intérêt de sinologue ni d'expert, mais c'est un peu plus que celui d'un touriste, parce que j'ai quand même fait beaucoup de visites, en Chine, notamment, comme, professeur ou chercheur invité, et puis je me suis un peu initié au charme du chinois, y compris à l'écrit, avec évidemment de modestes résultats, comme vous l'imaginez. La deuxième chose, je vous demande de pardonner le caractère totalement improvisé de mes questions, de mon intervention et de mes questions au professeur Ge, parce que en raison de la discussion de ce matin, au lieu de parler en suivant un peu certains éléments que j'avais trouvés dans son livre, mais c'était aussi parler en quelque sorte d'un absent, non pas le droit, mais le régime politique. Est-ce que la Chine a jamais changé de régime politique? Est-ce que la typologie des régimes politiques s'y applique? Est-ce que c'est un sujet qui la concerne? Voilà, c'était mon sujet d'origine, mais comme le titre qui me réunit aujourd'hui comporte les mots empire et nation, je vais aussi parler, et même beaucoup plus parler de manière improvisée, des formes politiques, peut-être en expliquant ce que c'est. Et donc mon intervention est une longue question, au fond, au lieu d'être une petite série de questions sur le régime politique. Je dirais que, il s'agit cette fois d'une longue réflexion pour représenter autrement ou reprendre le débat que nous avons commencé ce matin sur Empire et Nation. Donc, je découvre à peu près autant que vous ce que je vais dire maintenant, ce qui peut à la fois être une faiblesse et un charme de l'exercice. Sur le régime politique, je pourrais en parler si nous avons le temps quand même de voir comment on confronte. Ça se résume au fond à une seule question. Je vous l'ai déjà dit, la Chine a-t-elle vraiment changé de régime politique? Est-ce que le mot république succédant à l'Empire, qui lui-même n'est pas un régime, mais une forme, est-ce que c'est une question pertinente? Et puis, il n'y a pas qu'une seule Chine, il y a Taïwan, Hong Kong, Singapour et d'autres. Donc, on pourrait aussi démultiplier la question. Mais je reviens maintenant à mon sujet improvisé. Alors, pourquoi est-ce difficile de comparer? Non seulement, comme on l'a dit, les mots se traduisent mal d'une langue à l'autre, non seulement nous connaissons mieux notre histoire en général que, sauf si nous sommes des spécialistes, que celle des autres entités politiques, des autres pays. Mais il y a une autre raison, c'est que chez nous aussi, la confusion est extrêmement grande. Donc, pour mémoire, empire est un mot qui ne désigne pas un régime politique. Les régimes politiques, c'est la monarchie, l'aristocratie, la démocratie, la tyrannie, l'oligarchie et la mauvaise démocratie pour Aristote. Pour Montesquieu, par exemple, quand il s'intéresse à la Chine, On dira qu'il la qualifie pas en partie de république aristocratique et de despotisme oriental. Donc voilà, les régimes politiques, voici un mot, l'Empire, qui est politique, son origine est politique, c'est celui qui commande, l'empereur, et même le roi, au moment de la féodalité, est empereur à son royaume, même si c'est une expression un peu symbolique, et la nation n'était pas au départ un mot politique, c'est un mot qui a été politisé par la Révolution française, qui en a fait le seul élément légitime de la souveraineté, que celle-ci soit élitiste, démocratique, populaire. Et c'est la nouvelle grammaire politique, d'où la confusion, d'où l'Assemblée des Nations Unies, alors que toutes ne sont pas des nations. Certaines sont des cités, d'autres peut-être plus des empires que des nations, d'autres des structures encore semi-tribales. Alors, que faire de ce problème? Eh bien, il faut malheureusement ne pas trop simplifier tout en essayant de clarifier. Voilà ce que je me propose de faire. La nation et l'empire en Europe, il faut à la fois les penser, et on verra si c'est la même chose en Chine, mais ça, c'est un peu ma question, pas dans le vocabulaire, j'en suis sûr, mais dans la réalité. C'est à la fois quelque chose qu'on peut superposer ou opposer. C'est bien ça le problème. Un empire peut contenir diverses nations, au sens où ce mot voulait dire simplement une population, dans l'Antiquité et même au Moyen-Âge. Et même plus que ça, Montesquieu, au milieu du XVIIIe siècle, parle des nations de moines sur différents continents. Donc les gens qui ont le même style de vie, qui vivent de la même façon, forment une nation. Le mot n'a quasiment pas de sens politique. Un peu dans les lettres philosophiques de Voltaire et encore. Donc, que faire? Eh bien, un empire pouvait contenir des nations. Voilà ce que voulaient dire ces deux mots jusqu'à la Révolution française. En gros, hein, je simplifie, mais c'est le moment où énoncer la différence. Une nation ne pouvait pas contenir des empires, évidemment. Mais nous avons une autre façon de clarifier, c'est de nous occuper de la naissance même des empires pour comprendre quels étaient les rapports avec les nations de l'époque, dans ce cas-là. Hein? La Grèce, par exemple, fut englobée par l'Empire d'Alexandre. Mais on peut dire qu'au sens culturel, elle était une nation divisée en petites entités politiques qui étaient les cités. Nous avons ici deux types d'empires qui ont été mentionnés ce matin. Le premier concerne absolument la Chine, qui en est un des archétypes. C'est quand on est un empire, le verbe être. Donc, si cette entité politique disparaît, elle disparaît complètement. L'empire colonial n'est pas un vrai empire dans cette typologie, parce qu'on a un empire. Ce sont des possessions, et au sein de cet empire, il n'y a pas une ancienne cité qui a fait des conquêtes, ou une dynastie qui est devenue très puissante, ou un général qui a gagné beaucoup de batailles, ou quelqu'un qui a su uniformiser une culture, pas du tout. Il y a justement déjà une nation moderne, ou en tout cas une monarchie de type prémoderne, les empires espagnols, portugais, puis britanniques et français. Bon, visiblement, la comparaison pour la Chine comporte l'empire classique. Il y aura une deuxième différence qui n'est pas très importante, mais quand même, quand on compare l'Empire romain et l'Empire chinois, ce sont des empires compacts. L'Empire colonial est éparpillé par définition, va sur tout le monde. Hein. Son but, c'est plutôt que le soleil ne se couche jamais sur lui. Ça n'est pas d'être le centre du monde. Il sait que le monde n'a pas de centre. Bien. Alors, comment en est-on venu à opposer ce qui, au départ, était superposable et continue à l'être? Deuxième partie de ma question. Bien, ce fut un projet politique. Ce projet politique, à mon avis, mais on pourra discuter avec des doctes et des érudits, a été la première fois formulé par Machiavel, en termes assez confus, la volonté de faire de l'Italie une nation qui ne soit pas seulement divisée en petites patries, et de faire de cette nation quelque chose de nouveau et de meilleur, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait avoir les qualités de la cité et de l'empire sans leurs défauts. Voilà le projet et voilà pourquoi, dans cette succession des quatre formes politiques, la tribu, puis la cité, quand il y a une division du travail, l'écriture apparaît, puis l'empire, puis la nation moderne. Car c'est une histoire, les formes politiques, ce n'est pas une typologie analytique. Donc le projet, c'est d'avoir la puissance et la paix intérieure de l'empire, même si elle est parfois relative, et les libertés de la cité. Voilà le projet de la nation moderne, tel que l'entrevoit Machiavel. On peut évidemment échouer. La mauvaise nation, le mauvais nationalisme. Dans ce cas-là, on a les défauts des deux. Ça peut arriver. Mais le pari mérite d'être fait et l'expérience d'être tentée. Donc c'est le deuxième repère que nous avons pour parler de cette opposition entre la nation et l'empire. Je vais assez vite pour ne pas empiéter sur la discussion, nous est donné par Renan dans une célèbre conférence de 82, 1882, où il nous explique que contre l'Empire, ou dans l'incapacité de former un empire, même si ça reste toujours un peu dans l'inconscient politique des Européens, la preuve, n'a-t-on pas nommé l'Union européenne un soft empire, et un livre important en 2007 s'intitule Europe as Empire, en tout cas depuis l'élargissement aux anciens pays d'Europe centrale. La logique, cette fois, que nous propose Gellner, et j'essaierai d'appliquer très rapidement ces distinctions à la Chine ensuite, ce qui sera un peu l'objet de ma question. Donc, c'est là une longue introduction. Donc, ce que je vous propose, c'est non seulement une improvisation, mais une introduction qui n'en finit pas. Donc, il faut considérer, dit Renan, qu'il n'y a pas vraiment de définition de la nation. Voilà bien avancé. Aucun critère concret ne convient. Et il donne des exemples tout à fait convaincants. Mais c'est très simple, au fond. Il suffit de dire que quand vous êtes en présence d'une entité politique qui tente d'appliquer le projet de Machiavel, avoir les avantages de l'empire et de la cité à la fois, et qui visiblement ne présente plus les caractéristiques d'un empire ou d'une cité, eh bien, il faut bien le nommer autrement, même si c'est une entité assez vague et très protéiforme, c'est la nation. Alors, Renan avait un peu plus de matériaux que Machiavel pour aboutir à cette conclusion, car il avait enfin des États qui avaient voulu réaliser ce projet. Les États-Unis à leur manière, sous la forme fédérale. Notez par ailleurs qu'une nation peut être moins centralisée qu'un empire quand elle est de forme fédérale, la Suisse, les États-Unis. Et puis, il y a les nations centralisées, parce que c'était déjà des petits empires dans leur royaume, la Grande-Bretagne, la France. Eh bien, comme la Déclaration des droits de l'homme de 1789 dit en son troisième article que la souveraineté vient d'être transférée à la nation. Ce n'est pas une invention, elle appartenait à l'État et au roi. Mais cette fois, on la donne à la nation, sous une double forme d'ailleurs, sous une forme politique vraiment d'une assemblée de députés, de représentants, et puis l'idée plus générale, comme tous les citoyens ont des droits, ces députés ne font que les représenter, donc dans une forme un peu pyramidale, la souveraineté est aussi populaire. Et donc nous avons cette fois notre nation qui est différente. Et on a fait d'un mot qui était plutôt du domaine ethno-culturel une entité politique sans évidemment que sa réalité ethno-culturelle disparaisse. D'où le nationalisme, dont le but est de faire coïncider les deux. Quand on est moins nationaliste, on s'accommode des contradictions. Mais on a de toute façon une nouvelle forme politique qui, comme la division droite-gauche, qui a inventé exactement au même moment, le même mois, enfin les 2 mois d'été, s'étend au monde entier. Donc c'est peut-être une création européenne, mais en tout cas, le monde entier l'a fait sienne. Donc il y avait peut-être un besoin de cette forme politique. Arrêtons de faire de la politique, faisons un peu d'économie maintenant. Ernest Gellner, dans son ouvrage passionnant de 83, réducteur mais passionnant, parce qu'il cherche vraiment à expliquer les choses et non pas simplement à les décrire, nous explique que ce succès de la forme nationale n'est pas venu des deux projets initiaux. Hélas, peut-être, n'est pas venue cette généralisation et aussi la rapidité de la diffusion de la forme nation en Europe elle-même n'est pas venue seulement chez des intellectuels, des dirigeants, des partis politiques, du projet de Machiavel, faire la meilleure entité politique possible, ni du projet de 89, puisque toutes les nations représentées aux Nations Unies, et à des degrés divers, elles sont toutes même faillibles, ne sont pas exactement les lieux où s'appliquent dans leur plénitude les droits de l'homme. Donc il faut bien qu'il y ait une cause autre. La cause autre, nous dit-il, est économique. La cause, c'est que de même que la division du travail ne permettait plus de vivre en tribu et obligeait à créer la forme de la cité, eh bien cette fois, une nouvelle division du travail, celle de la société industrielle, fait que les anciennes formes politiques ne conviennent plus très bien. Pourquoi? Je passe, mais j'essaie de résumer son raisonnement. La nécessité économique de la société industrielle, c'est la mobilité sociale, c'est le changement de profession de génération en génération, c'est par développement des services, des emplois qualifiés, de la bureaucratie d'un État moderne, l'obligation quand même pour une grande partie de la population de savoir lire et écrire, compter à un assez bon niveau. Tout ceci se fera par et pour, dans une forme très circulaire, la création de la nation, d'essayer de faire ce groupe de population qui va correspondre à ce que sont les marchés des sociétés industrielles du 19e siècle, c'est-à-dire des marchés principalement nationaux, même s'ils font un peu de protectionnisme et de libre-échange, le protectionnisme étant aussi une forme d'échange, consiste simplement à taxer les échanges et non pas à les refuser. Et voilà donc notre dernière explication. Enfin, il y en aurait d'autres, mais celle-ci peut nous expliquer le cas de la Chine. Alors, j'en viens maintenant au cas de la Chine qui est vu par ces théories très générales. Alors, le diagnostic sur la Chine, et rien dans votre livre ne le dément, peut-être il y a des pièces manquantes, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi pour dire qu'elles font aussi partie du tableau final, est le suivant. D'abord, la Chine, c'est très intéressant en termes de formes politiques, les quatre que je vous ai décrites, parce qu'on les trouve toutes les quatre. Ça, c'est déjà très bien, hein. Bon, alors en matière de cité, d'héritage de la cité, Macao et Hong Kong ont un peu pâli. Il y a les formes ethniques, hein, des formes de vie qui sont certes modernisées, mais qui restent encore entre la nation et la tribu dans certains territoires chinois. Il y a aussi la division de la Chine au sens culturel entre un État reconnu et une entité autonome qui a une autre constitution, à Taïwan. Donc, nous avons toutes les formes politiques. Pourquoi toutes? Parce que je crois que la forme de la Chine dans ce cadre d'analyse ne peut être que double. Pour devenir une société industrielle, si Ernest Gellner a raison, la Chine est obligée de se nationaliser en partie. Comme tous les autres pays qui sont devenus industriels, se sont nationalisés. Prenez même un exemple comme l'Italie. Le Nord a beaucoup plus vite ressemblé à une nation parce qu'il était la partie industrialisée de l'Italie. Et c'est d'ailleurs le Nord qui a fait l'unité complète, à partir de la Savoie et du Piémont, de l'Italie. Donc la Chine se nationalise dans la forme de Gellner pour être une puissance économique. Mais évidemment, toute son histoire politique continue à peser, surtout on revient à ma première question, celle du régime. Pourquoi la République démocratique n'arrive pas, pour l'instant, même si elle est le projet de beaucoup d'intellectuels, à s'installer? Et donc, il y a, comme tout historien le sait, ce qui change et ce qui ne change pas. L'histoire est faite forcément d'éléments de continuité et de discontinuité. Et donc la question que je pose, c'est pour l'instant, si on prend les éléments théoriques, mais aussi expérimentaux, que je vous ai décrits un peu sommairement, la Chine est condamnée, si on peut dire, ou peut-être a-t-elle l'avantage d'être à la fois un empire et une nation. de façon presque non maîtrisable. Sur le plan économique, il faut qu'elle se nationalise avec les attributs que j'ai dit pour être une économie la plus performante possible. Les empires sont beaucoup mieux adaptés à la dissémination de communautés qui sont principalement faites d'agriculteurs, ce qui peut encore être vrai d'ailleurs d'une partie du territoire. Mais toute l'histoire culturelle, non pas seulement économique, mais culturelle de l'unification de la Chine, même avec ses hauts et ses bas et ses périodes de troubles, continue évidemment de peser, comme elle a même pesé, à mon avis, si l'on compare à l'Union soviétique, sur le destin du régime politique communiste chinois, qui me semble ressembler beaucoup plus à la tradition impériale, même si la Russie elle-même a aussi sans doute intégré son passé impérial, le camp de concentration stalinien n'étant au fond qu'un perfectionnement atroce du bagne tsariste. Donc, voilà la question telle que je la pose. J'essaie de donner une réponse, mais cette réponse est sans doute extrêmement discutable. Et j'ajoute une deuxième fois, pour être peut-être un peu plus provocant, ça n'est pas une singularité chinoise que cette double nature. La preuve, une bonne partie des élites européennes aspirent à l'Empire. Il y avait hier la représentante de l'Empire à l'Élysée, à côté du président Macron. Bon, vous voyez, ce n'est pas non plus le caractère. Mais chez nous, c'est un projet comme celui de Machiavel. Ce n'est pas un héritage historique comme celui de la Chine. Merci.
Bon, peut-être dans ce cas-là, si vous parlez de président européenne en ces thèmes-là, on va prolonger notre discussion sur l'Empire encore 2 jours. Bon, OK. Merci beaucoup. Hein, c'est une excellente synthèse, analyse en tant que un grand politologue sur ces questions. Maintenant,
mais je maintiens quand même ma question. Oui. Pourquoi cet échec du régime républicain oui. en Chine? Ça m'intéresse aussi. Oui, mais je n'ai pas pu l'expliquer. Si, professeur.
Voilà, voilà. Donc maintenant, la parole à M. Ke. Hein, c'est une question. Ça l'intéresse. Pourquoi le modèle.
C'est comme il veut.
C'est comme il veut. 我就以这个民族这个概念为，这个民族这个概念本来当然也是跟西方的这个nation或者是ethnic是有关联的，但是在中国呢，它有个非常特殊的这种变化的和使用的这个语境。你比如说，在中国传统看来。 这个民族，尤其是所谓的华夏族，或者是中华民族，它好像是一个自古以来就有的。但是在目前呢，学术界呢就出现了一些讨论，就是说这个民族是本质的，就是原来就有的，一直是自古以来就存在的，还是建构的。这是现在对于民族这个概念呢。 有一个重新认识。
Donc, beaucoup de nos discussions donc, reposent évidemment sur la définition des concepts qu'on utilise. Et dans votre discussion, donc, il a été mentionné maintes fois donc, la notion de nation. Enfin, c'est très ambigu, puisque en chinois, on ne dit pas nation, on dit minzu. Qui pourrait être traduit par ou nation ou ethnie, donc en français. Et dans le contexte chinois, ce terme donc de nation ou de ethnie connaît également donc une évolution hein, dans son usage et d'ailleurs qui suscite des débats puisque à propos de la nation chinoise il y a deux points de vue qui s'opposent. L'un consiste à dire qu'il s'agit d'une essence qui était là donc dès l'origine, et l'autre donc soutient qu'il s'agit d'une construction hein, a posteriori.
就是这个英国的 Malinowski 他们这个主导的所谓的民族学，就是通过费孝通他们。另外一个呢是斯大林，斯大林影响下的认为语言、风俗、居住的地域和风俗这四个要素是建构民族的一个。所以呢，在中国这个新词"民族"这个词里面。 就包含了非常复杂的内容。
Le premier point, hein, donc est-ce que la nation est une naissance ou une construction donc au cours de l'histoire? Donc c'était le premier point de discussion. Le deuxième point, donc c'est en Chine, lorsque on a pris connaissance ou on a fait usage de cette notion de minzu, l'usage a subi deux influences venant donc d'un côté de l'anthropologie anglaise, notamment via l'élève de Malinowski, donc l'anthropologue chinois Fei Xiaotong, et l'autre origine de la compréhension de Minzu en Chine vient de Staline, qui donc semble-t-il avait défini donc la nation comme étant comme relevant pardon enfin en relevant pardon en relevant les quatre éléments composant donc une nation, à savoir la langue, les coutumes, le territoire et alors j'ai pas entendu le quatrième élément. 您说的第四个，斯大林的第四个点我没听到，语言风俗，语言风俗，
居住的地方，
地域和。
还有风俗，
Ça, c'est la nation vue par l'Empire. Hein. Attention.
Bon. 我现在脑子都被，
那您接着讲。
斯大林的民族四要素，这是我们过去学中学的时候就要学的。
Donc, voilà les lieux communs donc qu'on apprend lorsqu'on est à l'école du temps de Monsieur Gueux évidemment donc à propos de la nation
血缘、
à Xueyuan ah,
语
d'accord
言、
donc les liens
风俗和居住
sanguins
地。
les liens donc sanguins et puis langue coutumes et territoire您接着讲。
但是第三个因素呢？大家看，第三个因素是什么？就是1950年代中国推行的民族识别这个事情。为什么现在我们把它叫做56个民族？就是因为在1950年代，中央政府推行了民族识别这个运动，然后根据斯大林的定义和英国的传统，然后界定了56个民族。
Un troisième élément qui détermine la compréhension en Chine de la notion donc de Minzu, un troisième élément vient donc d'un recensement dans les années 50, ou plutôt le mouvement de détection ou de détermination des nations au sein de la Chine, et donc où il était défini que la nation chinoise était composée de 56 ethnies, pour le coup, on ne peut pas dire autrement, suivant les critères établis, donc, comme je vous ai expliqué, des deux influences précédentes, à savoir l'anthropologie anglaise et la pensée stalinienne.
其实这里面有很多，如果讲起来很有点可笑，也有点有趣的事情。有些民族本来不成为民族， 但是为了按照这个定义来，可以制造民族，最典型的一个就是回族。
Alors, évidemment, au cours de ce recensement, de nombreux éléments qu'aujourd'hui qu'on pourrait qualifier de paradoxal ou de ridicule, donc s'est passé, notamment dans la définition de cette ethnie inexistant nulle part ailleurs, les Hui, par exemple. Enfin, je ne sais pas si pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la population vivant donc sur l'ouest, la partie ouest de la Chine et de confession musulmane notamment. Mais fortement sinisé.
所以我们说呢，这个如果说你要理解民族这个概念的时候，当它放在中国现代中国的语境里面，它可能跟欧洲人理解的 nation 跟或者说 ethnic 其实都不一样，它里面有很复杂的背景，所以那个概念和背景里面它那个关系是非常复杂的。
Donc, ce que je voulais donc vous signaler par ce petit rappel consiste donc à vous alerter sur le fait que lorsqu'on parle de minzu, de nation ou d'ethnie, dans le contexte donc de la Chine, il est vrai que ça relève d'une situation totalement différente donc du contexte linguistique ici en Europe. C'est ça,
所以，这个我们现在，比如说，世界上很多学者都流行讲 nation state 这个词，但是我们是反过来讲，我们讲是 state nation。为什么呢？是因为在中国实际上是现代的这100年来是国家在制造民族，不是民族去建立国家，是国家在制造民族。
OK. Bon, ben là, pour la traduction, on va être lost in translation hein, tout à l'heure parce que il est de coutume dans le monde académique en dehors de la Chine de parler de. Alors, Monsieur Ge pense que c'est nation state, sauf qu'en français, on dit état-nation. Donc, vous voyez, donc le jeu de mots ne fonctionne pas si on inverse état-nation. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que dans le cas de la Chine, c'est surtout l'État qui crée les ethnies, qui crée donc les nations, même si on s'est entendu dans le
那
sens
么
des ethnies,
这个我
et non
就是会
l'inverse.
讲那么长一段这个关于民族这个概念问题，其实也是回过头来讲说，包括像我们理解像帝国、王国，其实中国跟欧洲确实有相同的地方，但是有更多不同的地方。比如
Donc,
说，欧洲的王国可能他们各自有很大的权利，它的合法性要教皇来认可，但是中国的王国。在汉代以后，基本上这个皇帝说灭就灭掉了，皇帝说存在是存在了，他也不需要宗教来认可他的合法性，只有皇帝一个人，他可以决定这个王国的生死，而且中国的王国往往是我们通常所说的诸侯王国，其实他没有多大的能力，这跟欧洲是很不一样的。
Bon, ce que je voulais souligner, donc évidemment, c'est la différence des contextes dans lesquels on mène la discussion autour donc des concepts. Prenons aussi, par exemple, le terme de empire et de royaume surtout. Tel que je comprends, les royaumes dans le contexte européen, ce sont des entités politiques qui disposent d'un pouvoir, notamment les rois, autonome, peut-être qu'il y a besoin d'être sanctionné par une autorité religieuse telle que le pape. Et tandis que dans le cas de la Chine, si on continue à parler des royaumes qui a existé sous l'Empire, il faut savoir que ces royaumes-là ne disposaient que de très peu d'autonomie. Ce sont des fiefs et qui d'ailleurs n'avaient pas besoin de sanctions religieuses quelconques.
这个我最后就想简单的回应一下他的一个问题，就是中华民国的体制为什么失败？其实我并不认为他这是体制失败，他实际上是，如果大家了解现代史的话，就知道，在1927到1937，我们所谓的黄金十年，黄金十年里面开始进行大，因为那个时候国内相对比较统一了。 比较秩序建立了，所以它进行了很多现代国家的建设，比如说我们现在讲的六法，就是现在台湾还在印六法全书嘛，六法是那个时候制定的，三权分立的体制也是那个三权分立和五院制度也是那个时候建立的，当时的国家的广播电台、国家的各种机构也是那个时候建立的。实际上，中华民国的体制并没有失败，而是中华民国在很多偶然因素的影响下失败了。比如说国内的内战，比如说日本的侵略，比如说外部势力，比如说苏俄和美国各种介入，在各种偶然的因素下，它是失败的。这个中华民国是失败的，但是这并不意味着是一个体制的问题。体制是不是失败，恐怕我们还要看这个另外，从另外的角度来看。
Donc, pour revenir à la question que vous soulevez, à savoir donc l'échec du régime politique républicain. Alors évidemment, Monsieur Guo insiste qu'il s'agit donc du régime politique républicain de Chine, à savoir donc la République de Chine. Et si on parle du régime politique républicain de ce nom hein, qu'on appelle la République de Chine, vous le savez sans doute que de 1927 à 1937, il y a eu dans l'histoire de la République de Chine 10 ans, qu'on appelle un âge d'or de 10 ans, donc une décennie, où donc l'unification étant accompli, un certain ordre et de stabilité et surtout de paix donc s'est instauré. L'État moderne s'est efforcé de construire ce qu'on pourrait appeler donc des systèmes modernes d'un État moderne, comme par exemple la séparation des pouvoirs, ou bien le régime ou le système dit d'ailleurs aujourd'hui encore qui fonctionne encore à Taïwan, donc à savoir les cinq assemblée ou législature, je pense, désolé, je ne sais pas, cinq assemblées, on pourrait dire, voilà. Donc tout ceci pour dire que si la République de Chine a échoué, c'était sans doute donc dû à des raisons qu'on pourrait attribuer au hasard ou en tout cas à des circonstances historiques telles que la guerre civile, bien sûr, mais aussi l'invasion japonaise et sans doute aussi les ingérences des pouvoirs extérieurs comme les pouvoirs soviétiques ou américains et autres. Donc, quant au régime républicain chinoise, pardon, régime républicain chinois, est-ce que il est en échec ou pas? La question reste posée.
Vous voulez encore quelques
Dire,
mots à...
oui. Un mot, je vois bien les problèmes de traduction. Et parfois, peut-être faudrait-il prendre le problème à l'envers, au fond. Savoir quels sont les objets que nous comparons, quels sont les problèmes, quels sont les processus qui existent aussi bien en Chine qu'en Europe. Pour ça que je pense que plutôt que de discuter. Alors, on peut quand même partir des traductions, mais dans ce cas, il faut peut-être avoir des traductions qui ne soient pas d'un élément chinois vers un élément occidental. Il faut peut-être se servir des adjectifs. Peut-être faut-il parler de nation culturelle, ethnique, politique. On peut aussi regarder, je posais la question au professeur Chang, voilà, on ne traduit pas Nations Unies en chinois avec Minsu. Bon, donc c'est peut-être cela le terme qui compte quand on parle de nation politique à ce moment-là, par opposition à l'empire. Mais en tout cas, toutes les formes de régime politique acceptent d'être représentées sous le mot nation à l'Assemblée de l'ONU. C'est intéressant aussi de voir comment vous traduisez dans les déclarations des droits, que ce soit celle de l'ONU ou celle de la France en 1789, les articles qui parlent de la souveraineté nationale. Là, on a bien le mot nation, on n'a pas le mot ethnie. Donc, alors, quoi que populaire puisse encore brouiller un peu les cartes, mais la souveraineté est avant tout nationale. Et je ne vais pas être trop long, et je pense que voilà, il faut plutôt pour que le débat soit fructueux, si on comparons des problèmes et des processus. Ce projet d'avoir à la fois la puissance de l'Empire et les libertés d'une cité comme Athènes, ça, c'est quelque chose qui s'appliquait dans n'importe quel contexte culturel, continental, à différentes époques. Et l'impact que décrit Gellner sur les modifications du régime politique et de la forme politique apportées par la société industrielle, je pense, sont également visibles, au moins en termes de populations qui changent, qui quittent leur province, qui ne vivent plus toute leur vie dans leur village. Tout ça se produit, quelle que soit la culture, dès lors que cette entité politique et culturelle est soumise à différentes vagues de changements économiques, le dernier en date étant ce troisième système qui n'est pas vraiment libre-échange et qui s'appelle le globalisme. Je vous signale par ailleurs, ça c'est pour terminer sur quelque chose d'à la fois d'amusant et vrai, la théorie d'Ernest Gellner que je mentionnais signale que si les bourgeoisies étaient plus nationalistes que les populations au début du XXe siècle, c'est parce que leurs intérêts économiques étaient dans les marchés nationaux. Dans un monde beaucoup plus globalisé qui veut mondialiser les marchés, ces mêmes bourgeoisies élitistes sont devenues antinationalistes. Quelle surprise! Leurs intérêts sont évidemment ailleurs. Mais ça ne s'applique peut-être pas à la Chine.
Ah, voilà encore une chose qui serait intéressante à comparer.
Je 19世纪末，中国是很大程度上受到欧洲的误导。欧洲当时，意大利的马西尼说，一个民族就是要有一个国家，一个民族只能有一个国家。于是呢，中国也必须制造一个民族，然后形成一个国家。所以梁启超才算创造了"中华民族"这个词。
Donc Monsieur Ke donc déclare évidemment que qu'il est tout à fait d'accord avec vous. Alors moi j'ai que d'ailleurs il pense enfin que dans le cas de la Chine l'idée de la nation donc a été influencée donc à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle par les idées nationalistes européennes où il était stipulé que une nation un pays, une nation, donc, et c'est pour cela que des intellectuels influents de l'époque, comme Liang Qichao et autres, ont eu à inventer une nation chinoise, donc la nation Zhonghua Minzu. 我提一个点，好吗？那个中文里面也可以讲国族，哎，他其实他讲的那个 nation， 他强调是国族的概念。而跟我们讲民族有一点不一样。J'ai apporté juste un élément de traduction donc pour dire qu'en chinois, il existe un terme qui dit nation, mais avec le mot étatique dedans, sous-entend donc nation politique. C'est cette nation-là que vous désignez donc par nation, plutôt qu'ethnie.
Oui, M. Songan a bien mentionné, ça existe, les Japonais qui utilisent pas mal ce thème, hein, en Taïwan, on utilise,
oui, Taïwan, aussi.
Oui, à Taïwan aussi, mais récemment, ce thème aussi, il y a certains débats autour de ce thème,
bien sûr.
Monsieur, certains universitaires continentaux qui en parlent aussi. Vous voyez, tous ces voyages, toutes ces circulations, toutes ces définitions, c'est très intéressant. C'est justement, je mentionnais dans la préface que, brièvement, hein, parce que je dis que l'histoire du XXe siècle de la Chine, c'est une histoire de traduction, hein, c'est très difficile, beaucoup de choses. Voilà, donc je mentionnais une phrase d'un philosophe que je connais bien, Pierre, qui parlait il a un petit livre, traduire, hein, en disant que le retour à le mot original, le problème, c'est quel original? C'est ça. Bon. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, il faut peut-être prend de Pierre Lambès. Mais le problème là, il y a une autre difficulté, c'est comment on se communique. Ça, c'est déjà, voyez, que c'est, disons, que maintenant, ça y est, tout le monde accepte qu'on dit, on parle de réalité. Le problème, dès qu'on commence, on doit employer des mots. On est dû, par exemple, on est dû dire quoi? Du coup, ça déjà un autre problème. Vous voyez, c'est une autre question très, très compliquée, très profonde. Peut-être un jour, on va, j'ai déjà parlé avec Pascal, ou organiser d'autres colloques sur la question de la traduction. Hein? Voilà, bon. OK. On close cette séance avec vous. Maintenant, je vais passer la parole à Ingrid. Elle va lire à la place de An Chen, parce que An Chen, je vous l'ai dit ce matin, il y a un accident arrive chez elle. Elle était obligée d'être absente à son recueil. Donc, elle a envoyé ce matin son texte. Du coup, Ingrid va le lire à sa place.
Je ne fais que lire.
Tu lis une partie, après tu prends un peu de temps pour se laisser traduire.
D'accord, ouais. Mais je ne répondrai pas aux questions. Je voudrais tout d'abord remercier Zhang Lung de m'avoir invité à participer à cette journée de réflexion et de discussion autour du livre de Ge Zhaoguang, « Qu'est-ce que la Chine ?», tout récemment traduit en français par les soins de Lung. Il faut le remercier d'avoir pris la double initiative. Premièrement, de produire une traduction française après la traduction en anglais par Michael Gibbs Hill, paru à Harvard University Press en 2018. Et deuxièmement, de faire venir Ge Zhaoguang à Paris pour en discuter avec des collègues historiens et des sinologues français. Nous sommes tous infiniment reconnaissants de pouvoir dialoguer en direct avec l'un des rares intellectuels et universitaires chinois encore résidents en Chine, qui sont encore en mesure de s'adresser de l'intérieur à leurs concitoyens en disant la vérité des faits historiques et en déboulonnant systématiquement les fantasmagories idéologiques et les constructions du discours officiel. Tout ceci est d'autant plus précieux en ce jour même où le président Xi est en visite officielle en France. Mes questions s'adresseront autant à Ge Zhaoguang qu'à Lun, qui a fait précéder sa traduction d'une préface assez développée, mais qui, étonnamment, ne tient pas toujours compte des remarques et critiques qui ont porté sur la traduction anglaise parue il y a 6 ans. Pour ces traductions en langue occidentale, anglais et français, la question se pose de savoir comment non seulement passer d'une langue à l'autre, mais aussi et surtout comment faire lire à un lectorat occidental un ouvrage initialement destiné à s'adresser à un public interne chinois. En lisant ces traductions, je me suis souvent demandé ce qu'un lecteur ou historien occidental non initié parvient à saisir de ce qu'il lit. Toutes ces dynasties, ces références historiques inconnues qui n'évoquent rien, ces noms étrangers et étranges, imprononçables, etc. Ce sont là autant de questions que je me suis toujours posées, étant par définition confrontée en permanence avec cette nécessité de faire de la pédagogie autant que de la traduction face à des lecteurs, auditeurs cultivés et curieux, mais nullement initiés. C'est l'effort que je dois faire constamment dans mes publications grand public et mes enseignements qui, au Collège de France, doivent être accessibles à tous. Comme l'a souligné Lun dans sa préface, les travaux de M. Ge sont indissociables de son parcours vécu. Mon propre parcours a été, dans une certaine mesure, parallèle à celui de M. Ge, mais avec 5 ans de décalage, puisqu'il y a 5, il est de 5 ans mon aîné, et en plus de sa séniorité, avec sa supériorité d'historien authentique, entre parenthèses, je viens seulement des études classiques, ce qui signifie que nous nous sommes suivis de loin, en ayant eu quelques occasions de nous rencontrer, entre autres à l'école à l'ENS, à Stockholm, et en ayant fréquenté les mêmes lieux, mais à quelques années d'écart, à commencer par l'université de Fudan à Shanghai, où j'ai étudié à la fin des années 1970 sous la direction du professeur Zhu Wencheng, Göttingen, Hong Kong, Tokyo College, d'où je reviens tout juste, ou encore Chicago, où je m'apprête à me rendre. Nous avons le même domaine de spécialité qui est l'histoire intellectuelle de la Chine et avons publié chacun une sorte d'histoire de la pensée chinoise, bien que dans des registres différents. En véritable historien, M. Ge va bien au-delà des limites de l'histoire intellectuelle, essentiellement fondée sur des sources textuelles classiques. auxquels je me suis cantonnée. Ils n'hésitent pas à y puiser des matériaux comme les almanachs et les calendriers, les manuels destinés aux artisans et gens du métier, les images et les cartes, les découvertes archéologiques et les sources non chinoises. En tant qu'historien, M. Gueux a une conscience aiguë des trois points qui se présentent de manière dialectique. Que l'histoire chinoise impose de considérer tout événement dans la longue durée, avec pour corollaire que l'historien des périodes passées ne peut ne pas placer ses recherches sur fond des questionnements sur le présent. Que c'est précisément la raison pour laquelle ce à quoi s'attache le régime actuel en tout premier lieu est de réécrire l'histoire. Mais autant l'effort de M. Gueux est de porter sur l'histoire chinoise le regard le plus honnête et lucide possible, autant il résiste à la tentation forte dans les études postcoloniales, entre parenthèses prônées notamment par Prasenjit Dura, dont Loon ne fait aucune mention dans sa préface. De déconstruire à l'excès pour finalement rejeter en bloc l'idée de la Chine comme entité historique, pour la concevoir comme un simple « imagine community » à la Benedict Anderson. La position de M. Gueux a le mérite de la clarté, qui se manifeste dans le titre de son précédent ouvrage, Zazizongguo, que je traduis librement par « Cette Chine, ce pays du milieu où j'ai mes racines ». Son point de vue est celui d'un historien chinois qui voit les choses à partir de la centralité chinoise. Comme il le dit lui-même, « En tant qu'historien chinois, je dois réaffirmer encore que cette Chine existe bel et bien depuis l'unification des Qing, malgré les changements et les divisions qu'elle a connues. » C'est à ce titre que M. Gueux récuse toutes les historiographies qui se sont élaborées au XXe siècle, régionalistes, postcoloniales, postmodernes, etc., et qui tentent à déconstruire cette entité et cette centralité chinoise. Pour résumer, sans doute trop sommairement, en avançant la thèse selon laquelle la Chine serait devenue un État-nation avant la lettre d'Ele Song, M. Gueux fait d'une pierre deux coups. Il trouve ainsi le moyen, premièrement, de revendiquer un État-nation proprement chinois qui ne doit rien à la modernité occidentale, et deuxièmement, de devancer tous les problèmes qui se sont accumulés par la suite, Ming, Qing, République. En se donnant le droit d'affirmer que ces problèmes se sont accumulés, certes, mais sur cette base unifiée préexistante. Pour le citer de nouveau dans la traduction de Loon, « Au moins depuis la dynastie Song, cette Chine a eu à la fois le caractère d'un État impérial traditionnel et la connotation d'un État-nation moderne. Elle semblait à la fois un État-nation très moderne et une communauté civilisée très traditionnelle. Ainsi, la théorie qui établit une distinction entre l'empire traditionnel et l'État moderne ne correspond pas aux faits historiques de la Chine. Elle ne s'accorde pas non plus aux conceptions chinoises de l'État, ni au processus historique de la formation de cet État chinois. Elle ne peut pas nous aider à mieux comprendre les phénomènes relatifs au territoire, à la nation et à l'État de la Chine de nos jours. » On aura compris, et Loon le souligne à juste titre, que M. Gueux défend un point de vue national contre les nationalistes de tout poil qui prolifèrent et prospèrent actuellement en Chine et aussi ailleurs, entre parenthèses, parmi ceux qu'on a plus appelés les Sinobéas, qui sont particulièrement virulents en France. Ce point de vue national est à mon sens tout à fait légitime et défendable, mais il s'expose à un certain nombre de critiques potentielles. Plusieurs recensions de la traduction anglaise se sont dites choquées par le parti pris de départ de la Chine comme cas unique. Il faut en effet veiller à ne pas tomber dans le discours orientaliste sur l'altérité chinoise qui a connu le succès que l'on sait en France et qui rejoint fâcheusement le discours officiel actuel sur l'exceptionnalisme chinois, prétexte commode pour balayer d'un revers de main les questions des droits humains. Une grande idée de M. Gueux, regarder la Chine à partir des périphéries, c'est-à-dire prendre en compte les relations historiques et culturelles entre la Chine et les pays limitrophes comme la Corée, le Japon et le Vietnam. Perspective intéressante et tout à fait louable, mais qui reste fortement sino-centrée, d'autant plus que les périphéries en question ont longtemps constitué la sinosphère, ayant en commun le système d'écriture, le chinois classique, comme lingua franca des clercs, la gouvernance confucéenne et méritocratique, etc. Je prendrai pour ma part un décentrement radical en regardant la Chine à partir de son premier autre, ou si on préfère, dans son premier Occident, qui est devenu désormais son principal challenger en Asie, à savoir l'Inde. Or, dans les travaux de M. Goe, l'Inde n'apparaît qu'au titre de l'influence bouddhique. Or, qu'il y aurait bien plus à dire sur ce grand voisin immédiat. De l'aveu même de Loon, une autre question à laquelle l'auteur ne répond pas ici, pour des raisons compréhensibles, est celle de la citoyenneté, un des piliers fondamentaux de la nation moderne et qui invite à de nouvelles discussions urgentes face aux défis qui se posent à la Chine. On voit ici que M. Goe a choisi de se concentrer sur deux grandes questions. La question de l'identité, entre parenthèses, comment une identité politique peut-elle tenir ensemble? Et la question des relations inter-nations, comment une identité politique peut-elle se relier à d'autres? Mais en laissant de côté une troisième grande question, pourtant primordiale, celle de la légitimité, qu'est-ce qui confère à certains le droit de gouverner et comment sont-ils choisis? Or, force est de constater que le regard, certes, humaniste et confucéen de M. Goe sur la Chine, à partir des périphéries, ne permet pas de rendre compte de la situation actuelle des minorités nationales qui sont totalement opprimées par le pouvoir central Han. Alors, quels font des jures partie intégrante de la citoyenneté chinoise? Je remarque au passage que Loon ne fait aucune mention des travaux de Joël Thorvald sur la nation, nationalité et Minzu. En conclusion, le point de vue et la méthode historique de M. Goe, bien que solidement fondés et parfaitement cohérents, sont peut-être encore un peu trop consensuels pour pouvoir répondre à toutes les questions très inconfortables, anguleuses et acérées liées à la place occupée par la Chine dans le monde actuel.
Bon, on va. Merci Anne. Malheureusement, elle n'est pas là. On va quand même applaudir pour l'enregistrement. Bon. J'ai entendu pour la première fois dans cette intervention, mon nom a été cité à plusieurs reprises concernant la traduction. Je crois un des grands défis. Un des grands problèmes, c'est justement cette communication, cette traduction, et aussi cette question professionnelle, publique, tout tas de choses. C'est très compliqué. Je ne suis pas très sûr qu'on peut le traiter dans un seul livre comme celui-ci. Et peut-être c'est dans le trois soirs, dans le dialogue entre... le professeur Goe avec le grand historien Jean-Claude Smith sur le, hein, il a déjà mentionné certains points. À ce moment-là, je lui ai dit peut-être il a ignoré un peu. Peut-être ça fait la force de ce livre, en même temps la faiblesse de ce livre. C'est un livre de rassemblé de plusieurs conférences qu'il a prononcées dans des circonstances différentes. Ce n'est pas un livre hein, établir, à écrire. Voilà. Par exemple, M. Jean-Claude Smith parlait de pourquoi on n'a pas beaucoup parlé de l'économie dans ce livre, parce que c'est vraiment pour des raisons, c'est des conférences, tout ça. Voilà. Et donc, Anne a dit qu'on aurait dû faire plus de pédagogie que sur des choses... Là, je suis d'accord avec elle. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait? C'est quelque chose, je pense que même pour les Français, ce n'est pas si simple de réconcilier les deux registres. Pour parler de la Chine, c'est encore plus difficile. Hein? Voilà, c'est ça que je voudrais dire une chose. Hein? Le dernier mot, avant que je passe à la parole, Anne a dit que je n'ai pas mentionné les travaux de Joël et aussi sans citer certaines remarques critiques de certains auteurs dans l'anglo-saxon sur le livre déjà publié en anglais. Je dis que je ne peux pas tout faire. Hein. Je vais le faire en moins de 2 semaines pour ces préphrases. Je peux que faire de mon mieux, simplement présenter un peu. Je peux pas mentionner tous les travaux nécessaires concernant ce sujet-là. Ça, je m'excuse. Peut-être un jour, trouver d'autres occasions pour apporter plus en détail. Voilà. Okay. 里边你刚才没多次讲到我的翻译的问题，所以我必须要解释两句啊。
没关系，我想袁爱兰教授跟我一样是做中国思想史研究的，而且他是复旦大学的，在复旦大学留学的。我跟他见过好几次，对他的这个研究也是非常的佩服，也非常赞赏。他的这个对我这个书有一些评论，我觉得很多地方我都很赞同的。但是我稍微要解释一下两个问题，就是第一个问题就是说，当一个中国学者在讨论中国的时候，他可能他的分寸，他必须得考虑他如何横站，就是横着站，面对两面，他一方面要面对中国发言，一方面要面对世界发言的时候，他该怎么办？比如说，讲到宋代中国这个同一性的问题的时候，我说的恰恰不是为中国统一性来论证，而是要说明恰恰中国的统一性在当时只剩下汉族中国是统一的，而契丹、女真、蒙古、大理、安南都变成了一个国际了。那么这个意思是并不是站在现代中国的统一性，而是站在当时一个叫做宋帝国的小中国的统一性上讨论的，这个是我要做一个说明的。
Donc, Monsieur Gault commence par rappeler évidemment donc les liens d'affinité qui le lient à Madame Anne Chen, donc le fait d'être tous deux liés à Fudan et autres, tous deux travaillant aussi sur l'histoire de la pensée, etc. Mais tout de même, pour répondre donc à ces critiques ou aux commentaires de la part de Madame Chen, il aimerait donc tout de même s'expliquer sur deux points. Le premier point concerne donc la position inconfortable d'un chercheur chinois donc engagé dans de telles discussions comme nous avons en ce moment en France. Parce que il s'agit de se tenir dans une position, une double position, puisqu'il faut s'adresser non seulement au public devant lui, donc à savoir le monde extérieur, mais aussi le monde intérieur, à savoir la Chine. Prenons l'exemple que Madame Cheng a mentionné dans son intervention à propos de cette unité chinoise donc de la dynastie des Song, donc à savoir autour de 10 au 13e siècle. Lorsque Monsieur Ge argumente pour donc cette unité de la nation chinoise ou de l'État nation moderne chinoise sous les Song, il s'agit précisément justement d'une petite État-nation, d'une petite nation chinoise, puisque les Mongols ou les, enfin, plein d'autres, plein d'ethnies ou de populations aujourd'hui incluses dans ce qu'on appelle la Chine en étaient exclues. C'était voilà, une unité, mais restreinte. C'est pour pouvoir justement se différencier du discours ambiant, dominant d'aujourd'hui.
第二个问题就是关于这个周边以及所谓中国中心的文化圈的问题。其实我想还是这个，当中国学者讨论这个问题的时候，他特别强调周边的意义的时候，他其实上实际上是消解了中心的重要性。所以我们在中国提出从周边看中国，就是不要让中国总是自以为是地想象着自己，而是要通过别人的眼睛来打量自己。因此呢，当我在讨论中国或者包括汉字文化圈或者儒家文化圈的这个意义的时候呢，实际上我们更多的是突出了周边，而不是在突出中国。这个我想是要做一点说明的。
Il concerne donc l'attitude à adopter vis-à-vis de ce qu'on appelle les pays limitrophes, les pays voisins de la Chine. Certes, Madame Chen relève qu'il s'agit toujours d'une sinosphère, mais néanmoins,
lorsqu'on se place dans la perspective d'examination de la Chine à partir de ces pays limitrophes dans le contexte de discussion en Chine, il s'agit précisément de déconstruire cette centralité de la culture chinoise. Même si on peut manquer de mentionner l'influence de la culture chinoise, de la pensée confucienne, du moment qu'en Chine, on part de ces pays limitrophes, de ces pays voisins, pour regarder la Chine, c'est déjà donc un décentrement nécessaire et peut-être sanitaire dans l'ambiance que vous connaissez sans doute très nationaliste qui est en cours en Chine en ce moment.
Oui, bon, j'ajoute un mot. Hein. Dans la préface que je viens de mentionner un mot, je dis que l'approche M. Ge insiste, prône, c'est pas simplement de la périphérie, regardez la Chine, et les autres pays, hein, par exemple la Corée, le Japon, qui peut aussi, à partir, faire des études à la périphérie, la Chine dans ce cas-là, devient la périphérie du Japon. c'est pas un sinocentrisme. Ça, je pense que ici, il s'agit un peu de malentendu. Hein. C'est que, bon, voilà. Et donc, malheureusement, elle n'est pas là. On ne peut pas avoir un départ pour continuer. Dans ce cas-là, si.
Hein? Oui. Monsieur Ge répondait sur la citoyenneté, par exemple. Oui. Une question importante.
Un统中国的这个政权的合法性问题。我首先讲这个合法性问题。如果说像在我因为我比较熟悉日本的情况，日本的。 政权合法性是神圣的血缘，也就是说天皇万世一系，他只要是神，他就永远是天皇。但是中国呢，他除了血缘，就是皇帝的血缘之外，他多一条，你要有德，也就是说你要合乎道德，这就导致了两个不同的现象，一个就是。 天皇永远万世一系，在日本不会有政权的太大的变动，但是在中国要不断的革命，不断的朝代变更，所以在中国古代有一个著名的词叫做"汤武革命"，这个"汤武革命"就是有德的推翻没有德的，因此呢，中国历史上不断的有改朝换代，有革命。 所以它的政权合法性是二元的，这个是跟日本不同的地方。所以中国的到现在也是，为什么中国后来在1900年以后走向主义的时代，就是大家都讲主义、共产主义、自由主义、社会主义，就是因为主义，谁掌握了某种主义，谁就是有德，谁就有。 神圣性，谁就有合法性，所以这个这是我们中国的情况。
Alors donc Monsieur Béja donc a rappelé la question que Madame Hanchang donc avait soulignée, à savoir donc l'absence de la question donc de citoyenneté ou alors la question de la légitimité politique du pouvoir. Et Monsieur Ge rappelle que enfin donne d'abord, en comparaison, donc sur cette question de légitimité politique, le cas du Japon, où le pouvoir impérial légitime étant basé sur une sainte lignée, ou n'est-ce pas, donc la sainteté du sang de l'empereur. Tandis que dans le cas de la Chine, il s'agit d'une, certes, également donc une transmission héréditaire d'un côté, mais également donc une double assise de la légitimité politique, à savoir le de qu'on traduit souvent par vertu. Et donc, qu'un pouvoir en Chine soit légitime, il faut qu'il corresponde à des critères de vertu. D'où, évidemment, la nécessité de révolution lorsque les tenants du pouvoir ne répondent plus à ces critères. Et si on regarde donc l'histoire de la Chine de l'ère moderne, donc depuis 1900, par exemple, lorsque ce pays est entré dans l'époque qu'on pourrait qualifier de isme, à savoir socialisme, communisme et autres ismes qui avaient le vent en poupe dans ce monde moderne, c'est que tout simplement ces ismes-là, ces doctrines ou ces idées, donc avaient été assimilés donc à une certaine légitimité, à une vertu, donc à faire promouvoir. Donc c'est quelques mots pour expliquer donc en quoi consiste la légitimité politique dans le cas de la Chine.
Bon, comme maintenant Anne n'est pas là, exceptionnellement on a un petit peu de temps, pose une seule question, après on s'arrête là, hein? Ok, parce que c'est à la place de Anne, vous avez trois de poser les questions. Ok, oh, non, c'est, d'accord, ok, on polémique pas parce qu'aujourd'hui qu'on n'a pas de temps, désolé, parce que on doit faire la traduction, c'est ça, voilà, allez-y.
就是刚才那个问题
就是政权和人民之间的这个关系，这个权利，就是缺乏讨论。说的是这个。那么，稍微。对。就是这个是关键的区别。OK，对，toi-même，tu le traduis？Oui。C'est vraiment la différence principale entre l'Empire romain. Ce matin, on a parlé, et puis l'Empire chinois, et puis c'est aussi la différence entre
l'Empire et l'État-nation. C'est une question vraiment au cœur de régime politique, ce qu'on a discuté. C'est pour ça que j'ai envie de savoir un peu plus sur sur ces questions.
关于这个问题，我是觉得我从我的这个，因为我主要研究传统中国。 那么传统中国好像基本上不是太考虑公所谓，他首先没有公民这个身份，其次是他没有强调他的权利，而只是强调他的义务。所以在古代中国的话，他基本上就是说，普天之下，皇权是笼罩一切的，一切皇帝就像你的父亲一样。 他关爱你，养育你，但是你要服从他。所以呢，中国的人，我们不能讲是公民啊，是人，是生活在一个非常复杂的由五等九族这样的一个构成的一个社会网络里面的，他不成为他个人，他绝不是个人，所以呢，他只有在这个网络里面，他成为一个。 合格的维护秩序的人，一个分子，而不是说他要提出什么权利。正是因为这样呢，在传统向现代转型的时候，中国始终没有强调或者始终没有注意到叫这种公民教育或者公民的权利的教育。可是，在日本不一样，日本在明治时代是有很多国民读本的。 他教你怎么样做国民，怎么样维护自己的公民身份，这点是不一样的。我们一直到现在，我们还是没有很好的去教育说一个人怎么样成为公民、成为国民，而不是只是你父亲的儿子、君主的臣民，这点是没有教育的。
Quelqu'un, donc un chercheur travaillant sur la Chine traditionnelle, je peux commencer par faire remarquer que le statut de citoyen n'existait pas pour les Chines traditionnelles, lorsque on est le ressortissant d'un pays comme la Chine, dans la Chine traditionnelle, on insiste davantage sur, on n'insiste jamais sur ses droits, son pouvoir, mais sur son devoir. Et le pouvoir impérial qui protège, mais de façon paternaliste, et les gens, pour ne pas parler des citoyens, vivant donc dans un réseau de connexions ou de liens sociaux multiples, que ce soit ethniques, hiérarchiques et autres. Donc, c'était le devoir d'être chinois, c'est d'être donc un sujet modèle soumis à toutes ces exigences sociales assignées à son statut. Cette donnée hein, de la tradition pose beaucoup de problèmes, évidemment, à la transition à l'ère moderne dans le cas de la Chine, contrairement donc à notre voisin, à ce qui s'est passé chez notre voisin au Japon. Sous l'ère Meiji, il y avait des manuels de citoyens, n'est-ce pas, pour apprendre aux Japonais d'être un citoyen, pour leur éduquer, donc pour leur apprendre leurs droits et autres. Tandis que cette question, effectivement, de citoyenneté en Chine est une question toujours d'actualité, malheureusement.